Voilà, bonjour à tous, bonjour Étienne. Alors, dans l'épisode précédent de Nantes, cité des ducs de Bretagne, on a évoqué le premier duc de Bretagne, Alain Barbetorte. En 952, il décède. Oui. Il laisse derrière lui une Bretagne relativement prospère, mais avec des dangers quand même. Il a créé un certain nombre de choses, on l'a évoqué précédemment. Il décède, il a trois fils, oui. Un fils légitime et deux fils illégitimes. On va y revenir. Peut-être parler de qu'est-ce que c'est cette légitimité, cette illégitimité.
Oui, le souverain qui est légitime, c'est en général le fils du souverain précédent. Si le souverain précédent a été marié avec une princesse de haut rang, ça ne pose aucun problème. Si le souverain a eu plusieurs maîtresses, c'est évidemment plus compliqué parce que les enfants des maîtresses sont donc des bâtards. Et pour avoir le pouvoir, il faut quand même avoir aussi un peu la bénédiction de l'Église. Et l'Église, évidemment, ne donne pas sa bénédiction à tout le monde. Voilà pourquoi le fait d'avoir un fils légitime qui s'appelle Drogon, normalement, devait régler le problème. Mais c'est un enfant, et cet enfant va mourir jeune, ce qui fait que pour succéder à Alain Barbetorte, il faut aller chercher les deux fils de sa maîtresse qui s'appelait Judith. Et ces deux fils vont jouer un rôle important dans cette histoire, en partie d'ailleurs parce que celui qui était censé, finalement c'était le comte de Blois, hein, qui était censé chapeauter un peu, chaperonner sa sœur en cas de décès du duc, va s'avérer tout à fait incapable de protéger la cité face à ces dangers, et ce sont donc bien les fils illégitimes qui vont le faire.
Voilà, donc on peut imaginer qu'il y a des, lorsqu'il y a ce genre de succession un peu difficile, bah les regards des puissants d'à ouais. côté, là tu parlais de l'Anjou, oui. se tournent vers Nantes.
Hein. Oui, bien sûr, on a en fait trois ennemis potentiels pour le comte de Nantes, ou le duc, c'est plus le duc de Bretagne, hein, parce que un duc c'est quelqu'un qui conduit la Bretagne, donc là c'est pas un gamin de quelques années qui pouvait le faire, et ses frères qui sont plus âgés que lui d'ailleurs, qui sont donc des bâtards, comme j'ai dit, n'ont pas de légitimité, du moins pour l'instant. Ce qui fait que les Rennais, évidemment, veulent reprendre le pouvoir. On est là avec des descendants des rois de Bretagne du siècle précédent. Les comtes d'Anjou, qui jouent un grand rôle sur l'échiquier de l'époque, ils ont bien envie de contrôler la région. Et puis, les derniers Vikings n'en ont pas non plus tout à fait fini avec leur volonté de venir prendre les richesses ici et là, ce qui fait que pour asseoir son pouvoir, il fallait d'abord être le protecteur de la cité.
Et puis, on se rappelle que les Carolingiens avaient quand même misé sur Alain Barbetorte. Hein. Oui. C'était leur homme aussi.
C'était un peu l'homme, effectivement. Ouais. C'était un peu l'homme des Carolingiens. Mais bon, les Carolingiens, ils avaient misé sur beaucoup de gens. Donc, ils auraient très bien pu s'adapter à une situation nouvelle. Le problème qui s'est réellement présenté, c'est que le gamin Drogon est mort. Il avait 5, 6, 7 ans par là. Et il a probablement été assassiné. Et donc, sa mère a été remariée. Elle est rapidement partie donc de Nantes. Et donc Thibault, son frère, lui, n'a pas du tout fait ce que l'on attendait de lui, c'est-à-dire finalement de faire un peu la transition, quoi, comme ça s'est fait plus tard au temps des rois.
Ouais. Et tu l'évoquais au début, les Vikings vont refaire leur apparition.
Tout à fait. Les Vikings refont leur apparition, notamment vers 960, c'est-à-dire moins de 10 ans après la mort de Barbetorte. Et à ce moment-là, la cité est vraiment livrée à elle-même. Et c'est à partir de là, effectivement, que les deux fils, Hoël et Guérec, vont rentrer en scène et vont jouer. L'un va devenir le seigneur de la cité. On va dire le comte de Nantes, et pendant ce temps-là, l'autre sera l'évêque.
Ouais. On ne l'a pas évoqué depuis le début, ça, les sources qu'on peut avoir sur tous ces événements, tout ce qu'on raconte là, ça provient d'où ? Il y a les chroniqueurs, oui. Il y a les historiens.
Oui, d'abord les souverains ont souvent un clerc qui est attaché à leur personne, qui écrit leur histoire. Donc il y a effectivement l'histoire des Carolingiens qui est faite par des gens à leur service, qui disent toujours du mal des ennemis des Carolingiens, enfin des rois. Donc il n'est pas souvent dit du bien des Bretons. Ceci étant, il y a des traces écrites. Et puis il y a un document, entre autres, il y a un document très important, c'est la chronique de Nantes. Cette chronique de Nantes a été probablement écrite au XIe siècle, et elle a été traduite assez rapidement d'ailleurs, vers le XVIe-XVIe siècle. Elle a été retraduite, remise en français contemporain, c'est l'édition Merlet à la fin du XIXe siècle, et elle est disponible aujourd'hui. Donc c'est vrai que dans cette chronique de Nantes, qui est quand même faite tout auprès des événements, on retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments qui permettent de connaître cette histoire.
Donc, que va-t-il advenir? On voit que la situation est quand même délicate, hein, oui. Avec des deux fils légitimes, illégitimes plutôt, mais qui vont prendre un certain nombre de responsabilités.
Voilà, ils vont devenir légitimes, en fait, par les responsabilités qu'ils vont exercer. Oel remplace son père, donc, tout simplement. Il prend le pouvoir à Nantes à la force de l'épée. C'est lui qui protège la cité. Donc, les Nantais se reconnaissent derrière lui. Son frère est l'évêque. Alors, un évêque, à l'époque, il avait, je dirais, deux chapeaux. C'était à la fois quelqu'un qui avait un rôle important dans la cité, dans la vie quotidienne. Il pouvait intervenir politiquement. Il était écouté. Et puis, en même temps, mais il avait quand même la garantie d'avoir été choisi par le pape. Et donc, ça lui donnait aussi une autorité naturelle. Donc, ces deux fils d'Alain Barbetorte, Oel et Guérec, vont être finalement les continuateurs de cette dynastie. Tous les deux, d'ailleurs, vont avoir des enfants. Assez bizarrement, bon, le premier meurt vers 982. Et lorsque Oel meurt, après déjà des premiers combats qui ont vu les Rennais, les Angevins commencer à s'affronter, le comte de Rennes, on est là avec deux personnages très très fort, hein, quand même. On a Conan le Thor qui est duc de Bretagne à son époque, hein. Les chroniqueurs le considèrent, oui, comme duc pratiquement de Bretagne, puisqu'il apparaît avec le nom de Princeps, le prince de Bretagne, dans certains documents. Et puis on a du côté angevin, on a également des gens qui sont très très forts, notamment le fameux Fulco Nerra, fils de Geoffroy Grisgonel. Et il faut savoir que Fulco Nerra va être l'un des très très grands seigneurs de France de l'an 1000, et que les descendants de ce Grisgonel, de ce Fulco Nerra, ce sont les fameux Plantagenets, dont Richard Cœur de Lion, le célèbre, etc. Donc on est vraiment avec des familles qui sont puissantes. Et puis le comte de Nantes dans le milieu, il nage un petit peu, il fait un peu ce qu'il peut pour trouver également des alliances. Donc je crois qu'on est aussi dans une configuration un peu comme cela. C'est ce qui explique que les deux vont avoir du mal. On pense que Oel est assassiné. Encore une fois, moi je n'affirme rien, surtout sur Radio Alternante, mais on pense que Oel a été assassiné. Et donc Guérec, qui est évêque, à ce moment-là enlève son habit d'évêque, prend l'épée, devient le seigneur laïc, on va dire, de la cité. À son tour, il protège les Nantais comme il peut. C'est difficile, puisqu'il est nargué par le comte de Rennes, qui normalement devrait être son allié, qui va jusqu'à se faire construire un château vers le Bouffay, enfin une tour en bois, hein, comme on faisait à l'époque, pour narguer le pouvoir en place. Et puis il y a bien sûr la volonté des Angevins derrière également d'être présents. Les Vikings ont disparu de la scène à ce moment-là.
Et puis se dessine aussi, c'est la fin des Carolingiens.
C'est la fin des Carolingiens.
On approche, Luc Capet va donner le ton à une nouvelle dynastie.
Hein, voilà, il y a une véritable redistribution des rôles. Bon, il faut savoir que les familles comtales vont se débrouiller assez bien pour assumer le passage entre les Carolingiens et les Capétiens. Mais c'est vrai que c'est une période de flou, une période de transition. C'est aussi une période au Xe siècle où on a donné beaucoup d'importance, beaucoup de force aux Normands qui vont jouer un grand rôle. Depuis 911, la Normandie existe. Hein, c'est quand même la preuve également que les Bretons, les Parisiens, les Angevins, tout le monde avait reculé derrière les Normands. Donc on a vraiment une période de flou. Et il aurait certainement fallu que les Nantais aient une armée plus forte et des seigneurs mieux soutenus.